100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les violences urbaines en France, après l'affaire Théo, ce jeune noir de 22 ans victime d'un viol présumé après une interpellation violente de la police en banlieue parisienne. Dans ce contexte, le réseau européen contre le racisme publie une étude sur les pratiques policières et la discrimination, un phénomène très largement partagé par de nombreux pays. En Grande-Bretagne, les personnes d'origine asiatique sont deux fois plus souvent arrêtées que les occidentaux et en Belgique et en France, suite aux attentats, on assiste à une hausse des contrôles sur les personnes d'origine maghrébine. Le réseau demande donc des actions concrètes de l'Union européenne, y compris la généralisation du récépissé de contrôle, comme l'a expliqué l'une de ses dirigeantes, Alex Milota.
C'est une pratique courante de la police dans toute l'Europe, le contrôle au faciès. Claire Fernandez, directrice adjointe du réseau européen contre le racisme.
Au Royaume-Uni, les personnes noires sont contrôlées 6 fois plus que les personnes blanches selon le ministère de l'Intérieur. À Grenade, en Espagne, on a des chiffres qui montrent que les personnes noires sont contrôlées 42 fois plus. Il y a en France aussi une étude du défenseur des droits qui montre que les jeunes perçus comme noirs ou arabes sont contrôlés 20 fois plus que les jeunes blancs. C'est un phénomène structurel en Europe.
Ces contrôles arbitraires conduisent à des dérives pour le réseau. Il demande à la Commission européenne de prendre des mesures. Exemple, obtenir un récépissé de contrôle. Claire Fernandez.
Toute personne qui est contrôlée devrait pouvoir savoir pourquoi elle a été contrôlée, pourquoi elle a été arrêtée. Et puis ça permet surtout aussi d'avoir des données objectives pour savoir dans quel cas et sur quels critères les gens ont été contrôlés.
Ce reçu a déjà démontré son efficacité.
Ça existe au Royaume-Uni et ça existe dans certaines villes en Espagne. Ça a aidé notamment en Espagne à voir que une diminution du nombre de contrôles discriminatoires ne veut pas dire augmentation du crime et bien au contraire veut dire souvent une augmentation du nombre de contrôles qui vont être efficaces et qui vont vraiment permettre d'arrêter des vrais suspects.
Le réseau européen contre le racisme souhaite également que les policiers soient formés sur les préjugés, qu'ils remettent en cause leurs pratiques pour une police européenne plus juste et efficace.
La Moldavie, 3,5 millions d'habitants dans ce pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie, pays le plus pauvre d'Europe. Et les enfants ne sont pas épargnés. Pour venir en aide à tous ceux qui vivent dans la rue, un centre social porté par l'association Avecopi a ouvert ses portes il y a 25 ans, une maison au cœur de la capitale, Chișinău, qui se trouve aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis, celui des familles de migrants qui atterrissent dans le pays. C'est le reportage à Chișinău de Clémentine Métivier.
Comme chaque après-midi, aux alentours de 15h, l'association Avecopi ouvre l'espace de jeu réservé aux enfants. Les animateurs s'occupent des plus petits. En 1992, Mariana Janacevici, l'actuelle directrice, crée une association pour accueillir les enfants victimes du conflit en Transnistrie. 3 ans plus tard, elle a cette idée révolutionnaire, dit-elle, d'élargir le lieu à tous les enfants vivant dans la rue.
Les autres services existants à ce moment-là, et c'était plutôt des écoles internats, ils n'offraient rien aux enfants des rues. Nous avons pensé qu'il faut créer un service qui va offrir aux enfants des rues un accès non discriminatoire, au moins à un lit, les donner quelque chose à manger sans les demandant le certificat de naissance et le certificat de santé. Ça, c'était par principe et ce principe continue à nous guider même aujourd'hui.
En 20 ans, le centre s'est développé autour d'une idée chère à Mariana, celle de créer un modèle social universel où l'enfant est au centre.
Les autorités adaptent le service au profil des pédagogues sociaux dans ce service. Nous, ce qu'on veut avec ce modèle, et c'est pour ça que je dis, nous essayons à modéliser un service universel. Pour moi, la plus importante, c'est que les adultes, les engagés, les volontaires doivent s'adapter aux enfants.
Au quotidien, des animateurs sociaux se relaient pour travailler dans le centre. C'est le cas de Jean qui a rejoint l'association il y a un mois.
J'ai commencé en tant qu'animateur des rues. J'ai beaucoup aimé ce travail et puis je suis venu travailler ici. Je m'occupe d'enfants qui viennent de familles vulnérables et qui ont des problèmes sociaux. Mais il y en a aussi qui n'en ont pas. Il y a également des enfants de Chișinău et d'autres qui viennent de villages voisins.
Petru et Vitalier viennent du même village de Dourleș. Après l'école, plusieurs après-midi par semaine, ils aiment se retrouver au centre.
Je m'appelle Petru et je participe aux différentes activités ici. Il y a beaucoup de jeux ingénieux.
Je m'appelle Vitalie, je viens ici car il y a des jeux de mémoire. Je fais aussi du piano et on a un temps avec nos amis.
Depuis quelque temps, les enfants moldaves côtoient des enfants, réfugiés, ceux-là, arrivés avec leur famille. Là encore, l'association essaie d'être exemplaire.
On est la seule NGO maintenant en Moldavie qui offre un paquet social, médico-social aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. C'est vrai que je ne peux pas du tout comparer les chiffres entre les pays, c'est complètement incomparable. Par contre, pour la Moldavie, les chiffres sont importants, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Pour toutes les personnes, par exemple, avec le statut, ça veut dire des réfugiés ou des bénéficiaires de statut humanitaire, de protection humanitaire, on les aide. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, petits, grands. L'enfant ne peut pas attendre 6 mois.
Mariana ne souhaite laisser aucun jeune sur la route. Le mois prochain, un centre d'accueil pour adolescents sera ouvert derrière la salle de jeu. Les 12 lits sont déjà prêts.
Bonjour l'Europe.
La question de la surpopulation des prisons est à nouveau en une en Grande-Bretagne. Une enquête de la BBC vient de révéler dans un documentaire la situation chaotique qui règne dans un des plus grands centres pénitentiaires du pays. Pour en parler, on retrouve Muriel Delcroix à Londres. Muriel, que découvre-t-on dans ce documentaire ?
Eh bien, le reporter de la BBC a travaillé 2 mois à la prison de Northumberland, dans le nord-est du pays, en se faisant passer pour un gardien. Et ce qu'il filme en caméra cachée est extrêmement inquiétant. On voit un personnel en nombre insuffisant perdre peu à peu le contrôle de la situation dans un centre carcéral où l'usage de la drogue est généralisé et où les conditions de sécurité ne sont plus assurées. Le journaliste s'est en effet aperçu que les alarmes de plusieurs portes stratégiques ne fonctionnaient plus et qu'un trou avait été pratiqué dans une des grilles du périmètre de sécurité à l'extérieur du bâtiment, suggérant un trafic de drogue bien organisé. On découvre d'ailleurs les ravages d'un nouveau type de substance synthétique sur de nombreux prisonniers et même sur un gardien pris de convulsions après avoir inhalé en passant dans un couloir des vapeurs de spice, un stupéfiant de synthèse. On entend aussi plusieurs membres du personnel avouer qu'ils n'osent plus fouiller certains blocs ou intervenir lors de rixes, de peur d'être totalement débordés et de ne pas avoir de renfort à temps.
Et quelle est la réponse du gouvernement suite à ces révélations ?
Bien, le ministère de la Justice a immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'état de cette prison où se trouvent actuellement un peu plus de 1300 prisonniers. Mais le documentaire de la BBC porte un sérieux coup à la stratégie du gouvernement conservateur qui, depuis son arrivée au pouvoir, a procédé à des coupes claires dans le budget des prisons. Le pénitencier de Northumberland a été privatisé en 2014 et pour en acquérir la gestion, la société française Sodexo avait promis d'économiser 150 millions d'euros sur 15 ans. Pour y parvenir, 200 emplois, dont une centaine de postes de gardiens, ont été supprimés contre l'avis de leur syndicat, qui craignait que cela n'entraîne une augmentation de l'insécurité et des mutineries.
Le système carcéral britannique est donc clairement en crise. De manière plus globale, que propose le ministère de la Justice pour améliorer la situation ?
Eh bien, le problème principal, c'est la surpopulation. Alors que le nombre de détenus est passé de 42 000 dans les années 90 à 85 000 aujourd'hui, le parti d'opposition travailliste demande des peines de prison plus courtes pour désengorger les prisons. Mais la nouvelle ministre de la Justice de Theresa May ne veut pas s'engager dans cette direction. Lors d'un discours ce lundi, Liz Truss a rejeté les appels à alléger les peines de prison en attribuant l'augmentation des détenus à une approche plus ferme des crimes sexuels et de la violence domestique. À la place, la ministre a annoncé vouloir investir 120 millions d'euros en plus par an pour des programmes de réinsertion et des inspections plus sévères dans les maisons d'arrêt. Mais le syndicat des gardiens de prison a d'ores et déjà prévenu que ces mesures étaient insuffisantes et il réclame à la fois une réforme de la durée des peines et plus d'argent pour augmenter le personnel dans des prisons qu'il estime au bord de l'implosion.
Muriel Delcroix à Londres, merci. La Suisse et l'Europe, décidément un couple dysfonctionnel. L'accord de libre circulation entre ce pays et ses voisins est à nouveau égratigné par une nouvelle décision du Parlement qui veut exiger un casier judiciaire vierge pour toute personne qui voudrait venir travailler ou s'installer en Suisse. Une mesure incompatible avec la libre circulation mais qui a déjà été instaurée dans le canton du Tessin. Les explications de Katia Michel.
Avoir un casier judiciaire vierge, c'est déjà la condition pour obtenir un permis de séjour dans le canton du Tessin. La mesure, mise en place il y a 2 ans, vise essentiellement les Italiens voisins, qu'ils soient frontaliers ou résidents. Une pratique jugée discriminatoire par les autorités italiennes et contraire au droit européen. Mais pour le Tessin, la sécurité prime. Les autorités évoquent plusieurs affaires, notamment une fusillade près de Bellinzone en 2008. L'auteur était un ressortissant italien qui possédait un titre de séjour en Suisse et qui avait déjà un lourd casier en Italie. Mais reste que l'accord sur la libre circulation des personnes interdit expressément de recueillir systématiquement des informations sur le passé judiciaire des ressortissants. Jusqu'à présent, l'Union européenne s'était contentée de rappeler au Tessin les termes des accords bilatéraux. Bruxelles était davantage préoccupée par un autre projet suisse, la réintroduction de quotas d'étrangers sur son sol pour limiter l'immigration. Un sujet qui a d'ailleurs cristallisé les relations entre la Suisse et l'UE pendant près de 2 ans. Il y a quelques semaines, Berne et Bruxelles sont enfin parvenus à un accord sur ce point. Il n'y aura pas de quotas d'étrangers en Suisse, mais une préférence nationale à l'embauche. Tout juste rabiboché avec Bruxelles, le Parlement suisse a donc une nouvelle fois des velléités d'entorse à la libre circulation avec cette mesure concernant le casier judiciaire. La réconciliation avec Bruxelles pourrait donc être de courte durée.
La multiplication des réformes controversées du nouveau gouvernement polonais a déclenché une mobilisation sans précédent de l'opposition, notamment au sein du mouvement CODE, Comité de défense de la démocratie, mouvement citoyen qui dénonce sans relâche les atteintes à la liberté orchestrées par le parti Droit et Justice. Mais d'autres critiques ont choisi l'humour pour mieux dénoncer les incohérences du pouvoir. C'est le cas de cette nouvelle série satirique sur Internet, qui connaît un très beau succès d'audience depuis le début de l'année. À Varsovie, Maya Szymanowska l'a regardé pour nous.
C'est le jingle que reconnaissent aujourd'hui plus de 16 millions de Polonais. La mini-série satirique « Uroprezes à l'oreille du chef » fait un véritable tabac sur le web depuis la mise en ligne du premier épisode le 9 janvier dernier. Chaque épisode d'une dizaine de minutes se déroule au même endroit, dans le bureau de Jarosław Kaczyński, chef de file des conservateurs du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne depuis 1 an et demi. Un huis clos met en scène le leader des conservateurs et les plus hauts fonctionnaires de l'État, car c'est bien Jarosław Kaczyński qui fait la pluie et le beau temps en Pologne. Simple député, il commande pourtant au ministre, nomme et révoque les responsables des grandes entreprises et des médias publics, comme le montre ce petit dialogue avec le chef de la télévision publique Jarosław Kurski, appelé le bulldog du parti Droit et Justice.
Attends.
Je lis ici que les taux d'écoute s'effondrent à la télévision.
Mais non, tout d'abord c'est le prix à payer quand on transforme une TV en tube de propagande, puis ce sont de mauvais sondages payés par des affreux juifs à papillotes.
Le peuple borné gobera tout.
Je n'aurais pu mieux le dire.
Je me permets de vous citer.
Merci pour votre mémoire.
Tu as dépolitisé la télévision.
Oui, j'ai viré tous ceux qui étaient de l'autre parti, il ne reste plus que les nôtres. Je peux continuer à être chef de télé.
Mais oui.
Le passage qui a le plus fait rire les Polonais est celui qui met en scène le président Andrzej Duda. Seuls les prénoms sont cités dans la série. Il tente par tous les moyens de voir le chef, mais se heurte à la terrible Madame Bacha, simple secrétaire qui n'hésite pas à humilier le chef de l'État.
Annoncez, monsieur le président.
C'était prévu ?
Oui, c'était prévu que je signe tout ce que l'on me demande.
Ça, je sais, mais est-ce que votre visite a été prévue ?
Ah non, mais c'est une affaire urgente.
Tout le monde ici vient avec des affaires urgentes.
Oui, mais moi, en tant que président...
Monsieur, il n'y a pas de président qui tienne, vous avez un rendez-vous ou pas?
Après cet épisode, le président Andrzej Duda a montré de l'agacement et a voulu remettre les pendules à l'heure sur les rapports qui le lient à Jarosław Kaczyński, sans vraiment persuader.
Je peux juste dire que jusque-là, il me semble que c'est le premier secrétaire qui vient voir le président et pas le contraire.
Robert Górski, comique de métier et créateur de la série, ne s'attendait pas à un tel succès, ni à ce que Jarosław Kaczyński apprécie la satire. L'opposition lui a d'ailleurs reproché de montrer un Kaczyński trop sympathique. Réaction de Robert Górski.
Sans le vouloir, j'ai l'impression que j'adoucis l'image de Kaczyński. Mais ce n'était pourtant pas mon intention. Je voulais plutôt déranger. Je vois Kaczyński comme quelqu'un de solitaire qui est entouré de personnes avec lesquelles il ne peut pas parler, car il a éloigné tous ceux qui avaient le même niveau intellectuel que lui.
Peut-être en réaction à ses reproches, dans le dernier épisode diffusé, Jarosław Kaczyński apparaît comme quelqu'un de déconnecté de la réalité, ancré dans la vision de la Pologne datant des années 60. Même un supporter de club de foot de Varsovie venu effectuer de menus réparations dans le bureau du chef est étonné par son manque d'entrain pour les nouveautés. Car dans le dernier épisode en date, Kaczyński reçoit le ministre de l'Industrie qui tente de gagner le leader des conservateurs à la cause de la modernité et de l'innovation.
Faites vos innovations, mais ouvrez-moi quelques mines de charbon.
Les mines ne sont pas rentables.
Ce n'est pas grave, j'aime bien quand quelque chose pointe de la terre, quand on voit le châssis à molette, une belle cheminée et de la fumée. On sait alors que c'est une usine. C'est ça la puissance.
Après le succès colossal des 4 premiers épisodes, la télévision publique était en pourparlers avec Robert Górski pour diffuser la suite de la série sur son antenne. Górski a préféré décliner l'offre pour garder son indépendance et continuer à diffuser sur le web. 6 autres épisodes déjà tournés sont attendus avec impatience par les Polonais. Ucho Prezesa, l'oreille du chef avec son humour corrosif, est le seul feuilleton satirique et politique à faire autant d'audience.
On le sait, la Saint-Valentin est une très belle machine commerciale. On sait moins qu'il existe une réelle concurrence à l'échelle européenne des reliques de Saint-Valentin qui apparemment se multiplient comme des petits pains. L'Ukraine et la ville de Sambir ont les leurs. Sur place, Sébastien Gobert.
Dans l'ouest de l'Ukraine, on raconte que les habitants de Sambir embrassent comme personne d'autre dans la région. C'est parce qu'ils vivent à l'ombre de l'église de la naissance de la Vierge Marie, un bel édifice bleu datant du XVIIe siècle. Là, dans un coffre vitré, sont exposés quelques ossements attribués à Saint-Valentin. Le tout confirmé par une lettre du pape de Rome datant de 1759. Pourtant, des Valentins, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la chrétienté. Le Vatican recense pas moins de 7 martyrs nommés Valentin. Et des reliques de Saint-Valentin, on en trouve aussi un peu partout. En Irlande, en Écosse, en Autriche ou encore en France. Les histoires des ossements sont différentes, de même que les légendes de Saint-Valentin. Ici, ce serait un prêtre tombant amoureux d'une de ses paroissiennes. Là, ce serait un prisonnier sauvé par la fille de son geôlier. Nul ne sait trop qui est le Valentin qui repose à Sambir, mais l'essentiel, c'est que son histoire fait la part belle à l'amour. La tradition de Saint-Valentin comme journée des amoureux remonte au XVIIe siècle en Europe. En Ukraine, elle revient peu à peu à la mode après une longue période d'apathie sous le régime soviétique. Les couples, jeunes ou vieux, empruntent aux habitudes occidentales des cadeaux et soirées romantiques. À Sambir, l'église ne désemplit pas de la journée. Une file d'attente s'étire devant le coffre relique. Saint-Valentin prodigue des conseils et reçoit les confessions des amants éconduits ou les récits de folles aventures de jeunesse. Quels que soient ses ossements placés sous verre, ils remplissent admirablement la fonction de Saint-Valentin.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Fabien Mignoret. Retrouvez-nous sur Internet et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.
Du 21 au 30 juillet 2017.